Soyez les bienvenus sur France Inter, il est bientôt 7h30. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la désobéissance civile, nouveau credo des militants écologistes. Aujourd'hui commencent 2 semaines d'action pacifiste dans le monde entier avec au programme plusieurs blocages de grandes villes comme Paris. Le tout à l'initiative d'une ONG qui recrute de plus en plus, l'ONG Extinction Rébellion, mode d'emploi dans un instant. À suivre également un Airbus moins polluant, l'A350, nouvelle star du constructeur européen Air France inaugure son premier appareil aujourd'hui. Le début du procès Karachi avec dans le box 6 personnes jugées pour abus de biens sociaux. Le lancement cette semaine de la campagne de financement pour le Fonds mondial contre le sida. Et enfin la mort d'un batteur de génie, Ginger Baker et sa vie digne d'un roman. Dernier coup de cymbale en fin de journal.
Et je vous rappelle que l'invité de Léa Salamé à 7h50 et ce matin Ségolène Royal, l'ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles Arctique et Antarctique. Rendez-vous à 7h50.
France Inter.
Bloquer la planète pour mieux la protéger.
C'est la profession de foi d'une ONG qui fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. L'ONG Extinction Rébellion, née il y a un an en Grande-Bretagne, surnommée XR par ses militants. XR qui prône donc l'action directe, utilise les techniques de la désobéissance civile, pacifique et non violente. On les a vus ce week-end occuper un grand centre commercial parisien. On les a vus en juin dernier bloquer le pont de Sully dans la capitale, imperturbable malgré les jets de lacrymogène en plein visage des forces de l'ordre. Alors à partir d'aujourd'hui et pour 2 semaines, Extinction Rébellion prévoit des manifestations spectaculaires dans plus d'une cinquantaine de grandes villes, New York, Los Angeles, Berlin et bien sûr Paris, où ces militants nouvelle formule se préparent à des actions surprises. Delphine Evenou a rencontré les XR.
Pour être sûre d'être efficace cette semaine, Elina, 19 ans, vient de suivre une formation à la désobéissance civile. 5 heures de cours, 3 semaines chez Extinction Rébellion, déjà prête à l'action, c'est ce qu'elle cherchait.
J'ai voulu commencer à Greenpeace, mais ça m'a pas convenu parce que c'était trop long comme à mettre en place et il y avait trop d'hierarchie, je me sentais pas intégrée. Du coup, quand j'ai vu comment XR ça fonctionnait, j'ai tout de suite accroché.
Organisation horizontale, participation à la carte, communication virale. Les petits nouveaux sont de plus en plus nombreux, accueillis entre autres par Atrus, ingénieur de 38 ans depuis 6 mois dans le mouvement.
Le militant type XR, c'est quelqu'un qui n'a jamais milité du tout, qui a plutôt une bonne connaissance scientifique de la situation, que ce soit écologique, sociologique, économique. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de manifestations, de pétitions, qui veut rentrer en action tout de suite.
À l'image de Clément.
Maintenant, c'est l'étape au-dessus, c'est-à-dire que des marches, on en fait tous les samedis. Qu'est-ce qui change? Rien. Je pense que c'est la méthodologie qui fait qu'on va réussir à toucher les gens et peut-être changer les choses. C'est un pari, on n'en sait rien.
Un pari qui peut coûter une garde à vue, voire un casier judiciaire, un risque à prendre par devoir, estime Lucie, 24 ans.
Moi, j'ai l'éducation, j'ai de l'argent. Enfin, la société, clairement, elle est faite pour moi. On a les moyens d'être informés, donc on n'a pas le droit d'être aveugle. C'est vraiment une responsabilité morale.
Les militants attendent maintenant de connaître les lieux qu'ils vont bloquer, tenus secrets jusqu'à la dernière minute.
Delphine Evenou a retrouvé aussi sur franceinter.fr un portrait de Johanna Macy, inspiratrice de ce mouvement non-violent Extinction Rébellion.
7h33, c'est une affaire tentaculaire, Sébastien, vieille de plus de 15 ans, qui arrive aujourd'hui devant la justice.
L'affaire Karachi, du nom de cet attentat au Pakistan, qui le 8 mai 2002 avait fait 15 morts, dont 11 employés français de la direction des chantiers navals. Mais derrière cet attentat, qui n'a pas encore été jugé, se cache aussi une affaire politico-financière. Un système de rétrocommission occulte sur des ventes d'armement au Pakistan visant à financer la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 95. C'est cet aspect-là, le volet financier, qui commencera à être jugé aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Sur les bancs des prévenus, Nicolas Bazire, ancien directeur de campagne d'Edouard Balladur, Renaud Denodieu de Vabre, ancien conseiller à la défense de François Léotard, ou encore l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, tous poursuivis pour abus de biens sociaux. Charlotte Piret.
C'est l'histoire de pratiques étatiques aussi douteuses que courantes des années durant, jusqu'en 2000 et la ratification d'une convention de l'OCDE. La corruption semblait être la règle pour conclure les grands contrats internationaux, notamment dans le domaine de l'armement, écrivent les juges. C'est ainsi qu'afin de conclure des contrats avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan, la France a eu recours à un réseau d'intermédiaires, le réseau K, via des sociétés offshore aux îles Vierges britanniques et au Panama, avec en marge de ces contrats de sous-marins notamment, des commissions versées par la France et des rétro commission dont une partie aurait permis de financer la campagne d'Édouard Balladur pour la présidentielle de 95, en particulier un versement de 10 millions de francs abondé sur le compte de campagne pendant l'entre-deux-tours. Un dispositif occulte auquel Jacques Chirac, devenu président, a coupé court. L'attentat contre des ressortissants français au Pakistan serait alors survenu en représailles. Véritable affaire d'État dénoncée par les familles de victimes depuis 17 ans, sur laquelle, encore aujourd'hui, les juges disent avoir rencontré de multiples difficultés à enquêter.
Charlotte Piret, 4 jours après la tuerie de la préfecture de police, les enquêteurs s'interrogent toujours sur l'entourage du terroriste. Michael Harpon a-t-il agi seul? À ce stade, en tout cas, sa femme a été relâchée hier soir. Pas d'éléments à charge, malgré les 33 SMS échangés avec son mari le jour de l'attaque. Dans cette affaire, plusieurs politiques appellent Christophe Castaner à la démission. Le ministre de l'Intérieur sera auditionné demain par la délégation parlementaire au renseignement. Il sera l'invité du 8h20 dans 3 quarts d'heure. Sera-t-il bloqué au décollage par des activistes? Un Airbus A350 va prendre son envol aujourd'hui sous les couleurs d'Air France, un avion qui se veut plus écolo. L'A350, c'est en effet la nouvelle vedette d'Airbus pour les longs courriers. Air France vient donc de s'équiper. Premier vol avec un Paris-Bamako. Depuis quelques années, toutes les compagnies aériennes s'arrachent ce nouvel engin. Un succès dû à ses performances plus conformes à l'air du temps, Philippe Lefebvre.
Avec 913 commandes pour 51 clients et 300 avions déjà livrés, c'est peu dire qu'en à peine 4 ans, l'A350 a su s'imposer sur le marché de l'aérien avec un avion qui correspond plus que jamais aux attentes en matière environnementale. Il consomme en effet à performance égale 25% de kérosène en moins que ses concurrents directs, les Boeing 777 et 787. Et cela plaît aux compagnies comme la finlandaise Finnair qui a acheté 14 appareils. Javier Roy est porte-parole de la compagnie en France.
C'est un appareil qui montre un compromis total avec la planète aussi. C'est-à-dire que ça consomme moins, il n'est pas fait comme les autres. Dans les cabines, on change l'air tous les 3 minutes. Et tout ça, ça donne un confort, mais ce n'est pas un confort que pour le passager, c'est aussi un confort pour la planète.
Autre avantage, cet avion assemblé à Toulouse est capable de transporter entre 324 et 410 passagers. Il est donc plus facile à remplir pour les compagnies aériennes et évidemment plus rentable pour elles. Résultat, un marché porteur qui devrait avoisiner les 1000 milliards de dollars dans les 20 prochaines années. De quoi donner des sueurs froides aux dirigeants du concurrent Boeing.
Philippe Lefebvre, le pouvoir d'achat des Français a augmenté en 2019. Le gouvernement ne cesse de le répéter depuis la rentrée. Maintenant, ce sont les patrons aussi qui s'y mettent. Le MEDEF a sorti sa calculette chez nos confrères de l'Opinion. Et selon l'organisation patronale, les entreprises françaises auraient distribué 19 milliards d'euros aux salariés français sous forme de hausse de rémunération ou de primes exceptionnelles.
Il est 7h37. Le Fonds mondial contre le sida cherche des donateurs.
C'est cette semaine que le Fonds rassemble les principaux pays contributeurs. Réunion mercredi et jeudi à Lyon pour décider d'un financement pour les 3 prochaines années, objectif au moins 14 milliards de dollars. Il faut dire que l'enjeu est crucial. Le Fonds mondial, c'est 20% des sommes allouées à la lutte contre le sida dans le monde. Et dans certains pays d'Afrique, cette organisation est déterminante pour contenir l'épidémie. Exemple au Cameroun avec Véronique Julia.
À Yaoundé, la capitale, la moitié des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sont séropositifs. C'est énorme. Et ce qui est dramatique, c'est que ce chiffre n'a pas bougé depuis près de 10 ans. L'État camerounais met peu d'argent dans la lutte contre le VIH. Les associations locales, comme Affirmative Action, qui soutient les homosexuels, vivent donc majoritairement grâce au Fonds mondial. Il leur permet chaque année de faire des milliers de dépistages, de distribuer des traitements et un accompagnement spécifique à des centaines de malades. Serge Douomong-Guiota est le directeur exécutif de l'association.
On a pu distribuer également plus de 45 000 préservatifs, qui sont des outils indispensables à la prévention et qui restent encore très difficiles d'accès. C'est très stigmatisant pour un homme d'aller en pharmacie. D'ailleurs, on a eu des cas de restes.
Au Cameroun, en effet, l'homosexualité est pénalisée et les homosexuels considérés comme des parias. Le rôle de l'association, c'est aussi de financer des avocats en cas de besoin et de faire évoluer les mentalités auprès des autorités, là encore, grâce au Fonds mondial.
Il s'agit là, tout simplement, de réunir des autorités judiciaires, religieuses, etc. On essaye de déconstruire un peu les représentations qu'elles ont sur l'homosexualité et sur le travail du sexe.
Si le Fonds ne récolte pas assez de donations cette semaine, ce sont toutes ces missions essentielles qui seraient menacées. Au Cameroun, on compte 23 000 nouvelles contaminations chaque année. Près de 600 000 personnes vivent avec le VIH et la moitié d'entre elles seulement sont traitées.
Véronique Julia, en bref, encore à l'étranger, mauvaise nouvelle pour Donald Trump. Ce n'est pas un, mais 2 lanceurs d'alerte qui désormais sont prêts à témoigner contre le président américain dans l'affaire de destitution qui le menace. Voilà, quelques descentes de tomes, quelques coups de cymbales légendaires, ceux d'un batteur parmi les plus créatifs de sa génération. Ginger Baker est mort hier à l'âge de 80 ans, fondateur du groupe Cream, avec Eric Clapton, un son reconnaissable entre tous et une vie des plus romanesques, Mathieu Culeron.
Avec son regard de fou furieux, ses colères homériques et ses addictions aux drogues, Ginger Baker est pourtant probablement à classer dans le top 5 des meilleurs batteurs de tous les temps. Né au début de la Seconde Guerre mondiale, sa vie est un incroyable roman. Fan de jazz, il fait une première apparition dans un groupe de rhythm and blues dans lequel il croisera quelques membres des Rolling Stones. Au milieu des années 60, il fonde le groupe Cream avec Eric Clapton. Le succès est phénoménal. Le groupe vend des dizaines de millions d'albums sur la planète. Pourtant, la formation se sépare en 1969. Ginger Baker monte alors Blindfess avec Steve Winwood. Incontrôlable, le batteur part subitement au Nigeria, monte un studio sur place, fait même des sessions avec Paul McCartney et joue même un moment avec Fela, le roi de l'afrobeat. Plus tard, il collabore avec l'ancien chanteur des Sex Pistols dans son groupe Peel. Parallèlement, Ginger Baker est fan de polo et organise sa vie de musicien en fonction de cette étrange passion pour un junkie. Son amour pour le jazz ne le quittera jamais et le pousse à monter une émission de télé avec tous les batteurs qu'il admire le plus, de Max Roach à Elvin Jones. Véritable trompe-la-mort, Ginger Baker, réfugié en Afrique du Sud, a survécu jusqu'hier à tous les excès. Sa femme avait déclaré en 2009 « Si un avion s'écrase et qu'il y a un rescapé, ce sera Ginger Baker ».
Sunshine of Your Life, le tube de Cream sorti en 1967. Ginger Baker est donc mort hier à 80 ans. Ginger, car il avait une crinière rousse légendaire, Nicolas.
Merci Sébastien Logeni. Il est 7h41.